Canu, la plus rebelle des radios. Et comme tous les mercredis soirs de 20h à 21h, c'est Idée Noire, l'émission de l'UCL. Comme tous les mercredis soirs de 20h à 21h, vous êtes à l'écoute de l'émission Idée Noire. L'émission Idée Noire, c'est l'émission du groupe local de l'UCL, l'Union Communiste Libertaire. Et comme tous les mercredis soirs, on est ensemble pour une heure d'actualité sociale et politique vue à travers les analyses donc, de l'Union Communiste Libertaire. Union Communiste Libertaire que vous pouvez, on vous le rappelle encore une fois, rencontrer à la librairie La Plume Noire, librairie libertaire autogérée qui se trouve sur les pentes de la Croix-Rousse, dans le premier arrondissement de Lyon, 8 rue Diderot, pas très loin de la place Colbert. Et vous pouvez passer, nous rencontrer, échanger, vous procurer toute la littérature militante et libertaire que vous le souhaitez, le mercredi de 17h30 à 19h30, juste avant cette émission, ou alors le samedi après-midi de 15h à 19h, hormis bien sûr mobilisation sociale, manif ou autre qui, bien sûr, fait qu'on privilégie le fait de battre le pavé. Voilà, ça c'était nos rendez-vous habituels, et puis on commence par les rendez-vous à venir.
Et salut David, bonsoir à toutes et à tous. On commence avec un rassemblement qui a lieu en ce moment même. Il a débuté il y a un peu plus d'une heure. On espère qu'il n'est pas déjà dispersé par la police. C'est un rassemblement pour la Palestine, initié après ce qui s'est passé ces derniers jours à Rafah, dans le sud de la bande de Gaza. Après avoir indiqué aux populations civiles fuyant les combats de se déplacer là-bas, l'armée israélienne a bombardé un camp de réfugiés, faisant des dizaines de morts et blessant des centaines de personnes qui n'avaient que des tentes pour abri. On le rappelle, hein, si c'est encore nécessaire, que les bombardements et attaques au sol ont fait plus de 40 000 victimes côté palestinien et on compte environ 1,7 million de personnes déplacées. C'est donc en ce moment même place de la Comédie devant l'Opéra de Lyon dans le premier, juste derrière l'Hôtel de Ville. On vous en voudra pas hein, évidemment si vous coupez la radio pour vous y rendre. Et on a même la chance d'avoir eu un envoyé spécial là-bas qui nous a transmis des infos. Apparemment, ça rassemble 300 à 400 personnes avec des chants, des cris de résistance et de cessez-le-feu. La police, apparemment, n'est pas là ou se fait discrète. À noter quand même, hein, petite vigilance au niveau de la rue Herriot, au niveau de l'ancienne poste. Apparemment, il y a des véhicules des forces de l'ordre qui sont dans ce coin-là. Donc voilà, vigilance quand même, hein, si vous vous rendez sur place. Ensuite, ce week-end, deux autres rendez-vous. Le premier, c'est pour soutenir l'ouverture d'un local féministe autogéré qui se situe 4 rue Nérard, près du métro Valmy, dans le 9e arrondissement. Ça commence ce vendredi 31 mai, de 18h à 22h, avec un apéro durant lequel sera présenté le projet, un début de plan d'attaque et une visite pour commencer à se projeter dans le lieu. Il y aura quelques boissons et un peu de nourriture, mais chacune et chacun peut rapporter des trucs à manger et à boire pour partager tout ça dans un moment convivial. Le projet, c'est d'ouvrir un lieu féministe autogéré de rencontres qui accueillerait des ateliers, des événements et des réunions de collectifs en lutte, le tout dans une mixité choisie sans mexis. Et évidemment, à l'ouverture d'un nouveau local, ça demande du savoir-faire et du matos. Donc il y a un appel à dons et à compétences si jamais vous avez de l'électroménager, des outils ou des meubles en rab, ou que vous vous y connaissez en électricité, en isolation ou en accès PMR, personne à mobilité réduite, votre aide sera grandement appréciée. Ce sera donc ce vendredi à partir de 18h, 4 rue Nérard. Et ensuite, bah, les camarades du Canu Info vous en ont parlé il y a quelques minutes. C'est une rencontre de street medic. C'est organisé par Medic Action, un collectif queer d'aspiration anarchiste. On vous en avait déjà parlé dans cette émission pour la brochure qu'ils et elles ont publiée au sujet des bonnes pratiques à garder en tête lors des manifs. Et ces rencontres donc auront lieu du 31 mai au 2 juin à l'Illégalité, 6 rue de l'Égalité à Villeurbanne. Ça s'adresse principalement aux personnes qui sont déjà médics, qui débutent dans ce domaine ou qui souhaitent s'y investir. Le but étant d'échanger sur les différentes pratiques médiques dans les luttes et partager ses expériences, discuter soins communautaires et faire des ateliers approfondis de soins en contexte à risque. Au programme donc conférences, ateliers, initiations, concerts et temps d'échange. Et ça commence ce vendredi avec une conférence sur le soin communautaire qui lui aura lieu au centre LGBT de Lyon. Et le samedi, ensuite, divers ateliers approfondis à destination des médics, ainsi qu'une initiation au premier secours qui, elle, sera ouverte à toutes et tous. La journée se terminera par un concert dont le lieu apparemment est toujours à définir, mais vous pouvez retrouver toutes les dernières infos sur Rebellion ou sur tous les réseaux sociaux du collectif Medic Action.
Puis, autre annonce, qui n'est pas une annonce, mais plutôt une information qui nous scandalise une fois de plus, qu'on a appris aujourd'hui. Alors, on parlait des mobilisations au soutien à la Palestine par rapport à l'horreur de ce qui se passe au Moyen-Orient. Est-ce que ça a un lien avec ça? On a su que, bien évidemment, les intégristes de tout poil et des extrémistes de tout poil attisaient la haine religieuse tentant d'incendier des synagogues à Rouen. Mais là, c'est pas une synagogue qui a incendié, c'est de nouveaux tags islamophobes qui ont été découverts hier matin sur la mosquée de la Croix-Rousse, un lieu de culte qui se trouve au milieu des pentes de la Croix-Rousse, rue Humbert Colomès, qui avait déjà subi des dégradations en avril dernier, en novembre 2023. Et cette fois-ci, bah, c'est des dégradations qui ont été commises sur la façade de la mosquée où des tags injurieux contre l'islam assortis d'une croix ont été découverts hier matin. C'est pas la première fois, on le disait déjà dans la nuit du 19 au 20 avril ainsi qu'en novembre 2023, la même chose s'était passée. Et bien évidemment, bah, on peut que constater une attaque islamophobe, une expression islamophobe qui tente d'attiser la haine entre les personnes, entre les communautés dans ce contexte politiquement tendu de conflits au Moyen-Orient. Voilà, on voulait faire partager cette information. On vous parlait de la Palestine, on vous parlait de ce conflit au Moyen-Orient, et ben l'actualité internationale, c'est aussi ce qui se passe en Kanaky, Rémi.
Oui, les camarades de la semaine dernière vous en ont parlé dans cette émission, mais on voulait quand même revenir dessus, puisque l'UCL a publié un communiqué qui retrace un peu l'histoire de comment est-ce qu'on en est arrivé à cette situation de soulèvement. Ça a commencé il y a plus longtemps que ça, mais le dernier événement tragique, c'était il y a 40 ans, après le soulèvement du peuple kanak en 1984, la Nouvelle-Calédonie kanaky s'embrase aujourd'hui à nouveau. On va pas refaire l'histoire coloniale de la France, on en aurait pour des jours, voire des semaines. Mais avant de parler de ce qui se passe, de ce qui se joue actuellement, je voulais faire un petit retour en arrière pour comprendre le contexte de cet embrasement. En 1984, donc, l'État français et les populations kanaks se sont affrontés dans des événements qui ont fait de nombreux morts et qui ont atteint leur point culminant en 1988, lors de l'assaut sanglant par la gendarmerie française d'une grotte sur l'île d'Ouvéa. Après cet affrontement qui a fait donc plusieurs morts, on a eu droit aux accords de Matignon, qui devait entamer un processus de décolonisation de la Nouvelle-Calédonie kanaky, un processus qui devait durer 10 ans, mais qui a finalement été longtemps repoussé. Et finalement, la décision d'indépendance de la Nouvelle-Calédonie kanaky se fera par référendum à travers trois consultations. La dernière en date, qui s'est déroulée en 2021, a vu le non à la souveraineté et à l'indépendance l'emporter sur un score de 96% des suffrages exprimés. Et ce qui est important dans cette phrase, c'est pas le chiffre de 93%, mais bien qu'il s'agit des suffrages exprimés, puisque l'abstention a atteint, elle, 56%. Et si elle est aussi forte, cette abstention, c'est parce que les Kanaks ont refusé de participer à cette consultation, ou qu'ils et elles n'ont pas pu participer à cette consultation. En effet, le Covid étant passé par là, beaucoup des populations les plus pauvres, donc les Kanaks de l'île et pas les colons, sont mortes. Et celles et ceux qui ont survécu ont observé une période de deuil qui empêchait de faire campagne pour ce référendum. Une demande a donc été formulée pour repousser le vote, demande évidemment refusée par l'État français. On remarque pourtant que lorsque la participation kanak est forte, le vote en faveur de l'indépendance augmente aussi, comme lors du deuxième référendum par exemple, la population kanak ne représentant de toute façon que 40% de la population totale, même si il et elle votaient tous et toutes. Il y a peu de chances qu'un tel référendum passerait. Il s'agit donc d'un vote réalisé par les colons et pour les colons. Mais pourquoi l'État français s'acharne-t-il à refuser l'indépendance de la Kanakie ? Ben comme toujours dans les histoires de colonisation, c'est pour protéger ses intérêts. Et le premier intérêt, il est évidemment économique. L'État français refuse d'abandonner les mines de nickel qu'elle a investies. Le second, il est stratégique. C'est afin de pérenniser sa présence militaire dans le Pacifique. Dans cette droite ligne qui vise à priver toujours plus les Kanaks de leur autodétermination sur ce territoire, Emmanuel Macron a préparé donc ce qu'on appelle le dégel du corps électoral, et c'est ça qui est au cœur des tensions aujourd'hui. En gros, ça veut dire élargir le corps électoral en Kanaky pour y intégrer les dernières et derniers arrivants, en majorité de France métropolitaine, donc des colons, et ce, dans le but d'accentuer la mise en minorité des Kanaks sur le plan politique. C'est un objectif essentiel pour toute colonisation de peuplement, et c'est ce que fait l'État français depuis 171 ans. Il a d'abord décimé les Kanaks, puis organiser le remplacement de la population autochtone par des vagues d'immigration. Le projet de loi constitutionnelle actuel, il est toujours en discussion à l'Assemblée nationale, et l'objectif est donc d'autoriser toute personne installée depuis 10 ans sur le territoire à devenir électeur ou électrice. Ça revient à ajouter en gros 25 000 nouvelles et nouveaux électeurs à une liste électorale qui compte 180 000, un chiffre donc de 25 000 qui est considérable par rapport à la population totale de cette région. Le colonialisme, lui, ne se retirera que sous la contrainte, et en ce moment, son but, c'est de gagner du temps, de noyer le poisson, de diviser les forces indépendantistes et de créer l'illusion de la démocratie à travers des référendums, on l'a vu, qui sont pour la plupart truqués par les chiffres. On n'hésite pas non plus à utiliser la menace, puisque Darmanin a mis en garde quant à une ingérence étrangère, notamment chinoise, si la France se retirait. Mais évidemment, là encore, personne n'est dupe. Il s'agit d'une rhétorique classique pour discréditer les luttes indépendantistes. Les mobilisations se multiplient donc en Kanaky, mais peinaient jusqu'ici à être entendues en France métropolitaine, où la politique coloniale de l'État français est souvent, trop souvent, passée sous silence. Mais nous, à l'UCL, on place évidemment au cœur de nos revendications les luttes décoloniales, et on soutient les peuples en lutte pour leur indépendance et contre l'impérialisme. Cet État, l'État français, d'une main, réprime le peuple français dans l'Hexagone, et de l'autre, maintient des milliers de personnes dans une situation de sujétion, empêchant leur accès aux droits les plus fondamentaux, à savoir les droits à leur histoire, à la terre, à la culture, et à la dignité et à l'autodétermination. Et comme le dit donc le communiqué publié sur notre site sur lequel je me suis pas mal basé pour cette petite chronique, nous exprimons notre opposition au dégel du corps électoral en Kanaky, bien évidemment. Nous réexprimons notre soutien inconditionnel avec le peuple kanak dans sa lutte pour l'indépendance, et plus généralement nous exprimons cette même solidarité avec tous les peuples et toutes les organisations anticolonialistes qui luttent contre la politique de l'État français, que ce soit dans les territoires dits d'outre-mer ou dans les anciennes colonies toujours sous influence. Voilà donc pour un petit point politique sur la situation actuelle en Kanaky. La situation sur place ne empire en ce moment, puisqu'il y a déjà plusieurs morts, des centaines de blessés dans les affrontements. Et ça risque pas de s'améliorer, puisque l'État français a envoyé encore plus de forces répressives sur place. En tout cas, si vous voulez vous pencher sur le contexte politique qui a mené à cette situation, on ne peut que vous conseiller d'aller voir sur notre site unioncommunistelibertairetoutattaché.org. On y a publié un communiqué avec plein de liens qui mènent à des articles qui expliquent très bien tout ce contexte et qui reviennent sur 40 ans, voire 170 ans, 171 ans plus exactement, de lutte pour l'autodétermination du peuple kanak.
voilà, qui est important pour une fois d'aborder en début d'émission. On a tendance à aborder les points internationaux, mais c'est vrai qu'entre les événements tragiques de Palestine et la répression de l'État français en Kanaky, on parle bien de lutte internationale, parce que c'est pas la France. C'est certes l'outre-mer, mais c'est pas l'outre-mer français. C'est un peuple qui est en lutte pour sa reconnaissance et son autodétermination. Et ben, il était important de revenir sur tout ça au début de cette émission Idées Noires, l'émission de l'Union Communiste Libertaire. On va faire une première pause musicale dans cette émission qui tombe à propos. On va retrouver Renaud, Ami.
Ouais, Renaud, le Renaud de la bonne époque, le avant, Renaud de la avant bonne... qu'il embrasse des flics.
Exactement, avec un morceau Trivial Poursuite qui justement fait déjà à cette époque-là écho à ce qui se passait malheureusement en Palestine et en Kanaky.
Sous quelle botte étoilée, derrière quel barbelé, sous quel champ de ruines. Question d'histoire encore, combien de victimes, combien de milliers d'enfants dans les décombres des camps deviendront combattants. J'en sais donne ma langue au chagrin, si tu sais, toi, souffle-moi. Question de géographie, où est la Kanaky? Combien de flics, de soldats, pour tenir Nouméa, pour flinguer les lois? Combien de petits blancs, de colons arrogants se partagent la terre et combien de misère pour le peuple kanak? Combien de coups de matraque? J'en sais rien, je donne ma langue au chagrin, si tu sais, toi, moi. Question de sport, qui détiendra le record et restera vivant, libre et innocent, derrière des barreaux. 20 ans pour Othello, autant pour Mandela. Et combien dehors la loi, j'ai ces petits juges en bois dont on fait les salauds. J'en sais rien, je donne ma langue chagrin, si tu sais, toi, souffle-moi. Question science et nature, où balancer ces ordures? Allez à la Vologne, ces chiens qui assassinent, ces rats qui emprisonnent. Question de littérature, qui a écrit que les hommes naissaient libres et égaux, libres mais dans le troupeau, égaux devant les bourreaux? J'en sais rien, comme ma langue au chagrin, si tu sais, toi, souffle-moi. Souffre-moi. Moi, j'en sais rien, je donne ma langue au chagrin, si tu sais, toi, souffle-moi. Souffre-moi.
Vous êtes de retour dans l'émission Idées Noires. On est ensemble jusqu'à 21h. Idées Noires, l'émission de l'Union communiste libertaire. On a encore une bonne quarantaine de minutes ensemble pour analyser l'actualité sociale d'un point de vue libertaire. Et l'actualité sociale en ce moment, c'est aussi et surtout la réforme de l'assurance chômage.
Bah oui, exactement, puisque pas plus tard que ce week-end, le gouvernement et Gabriel Attal ont dévoilé une réforme extrêmement violente. Avec cette réforme, on peut se poser légitimement comme question le fait de savoir combien seront-ils de salariés à se retrouver sans droit au chômage à l'issue d'un CDD de 6 mois, combien seront-ils à basculer vers le RSA ou en à peine plus d'un an suite à un licenciement venant conclure une vie de travail. En tout cas, on n'a pas la réponse précise, mais assurément on peut craindre que c'est des centaines de milliers de personnes qui vont se retrouver dans cette situation, puisque durant ce week-end, samedi soir exactement, Gabriel Attal a annoncé les mesures qui s'appliqueront au 1er décembre prochain aux personnes privées d'emploi. Et en fait, on constate qu'il s'agit d'une des réformes de l'assurance chômage les plus dures depuis l'élection d'Emmanuel Macron. Alors, Gabriel Attal avait, dans un interview qu'il avait accordé à la tribune du dimanche le 25 mai dernier, il avait dit qu'il préparait une réforme qui ne serait pas une réforme d'économie, mais de prospérité et d'activité. Tout le monde s'en souvient. Ça avait de quoi nous inquiéter. Pourtant, les annonces de ce samedi soir nous ont bien montré que c'est des économies que le gouvernement a réalisées, puisque depuis déjà le 28 décembre dernier, en publiant au journal officiel un arrêté ponctionnant de 12 milliards d'euros l'UNEDIC, vous savez, cette fameuse caisse qui est chargée de la gestion de l'assurance chômage en coopération avec France Travail, et ben, il avait économisé 12 milliards sur l'exercice 2023-2026, des milliards qui étaient soustraits à la couverture du risque de perte d'emploi, qui est en général majoritairement réaffectée à l'aide aux entreprises pour développer l'apprentissage. Et aujourd'hui, bah, c'est encore des mesures d'économie, puisque le gouvernement réduit encore les droits au chômage et que le ministre du Travail a affirmé attendre 3,6 milliards d'économies par année pleine, soit trois fois plus que la précédente grande réforme de l'assurance chômage qui avait été réalisée en 2019. Alors pour ce qui est de la prospérité, eh ben elle ne concernera en tout cas pas les demandeurs d'emploi. Pour elle et eux, ben en premier lieu les 2,6 millions de personnes qui sont actuellement indemnisées, et déjà il faut savoir que c'est moins de la moitié des demandeurs d'emploi qui pour l'instant sont indemnisés, eh ben ça sera une nouvelle punition à compter du 1er décembre prochain, dès le 1er décembre 2024, puisque le temps que pourquoi on pourrait se demander hein, pourquoi simplement au 1er décembre et pas dès le 1er juillet là où les textes vont être officiellement publiés, ben c'est tout simplement le temps que France Travail mette à jour ses logiciels et ils estiment que ça sera opérationnel dès le 1er décembre. Donc dès le 1er décembre prochain, les demandeurs d'emploi de demain auront moins de possibilités d'ouvrir des droits à l'assurance chômage, avec une durée d'indemnisation qui sera encore réduite et des protections qui seront supprimées, notamment pour les chômeurs les plus âgés. C'est ce qu'on va voir en détail. On peut aussi parler de la réforme d'activité qui sera elle bien modeste, hein, c'est le gouvernement qui le dit lui-même, puisque celle-ci espère simplement 90 000 personnes supplémentaires en emploi avec cette réforme sur 90 000 personnes sur combien ? Sur 6 millions d'inscrits à France Travail. Bah, j'ai jamais été très fort en maths, mais le calcul est vite fait, ça fait 1,5% des demandeurs d'emploi actuels qui pourront bénéficier de cette réforme d'activité. Autant vous dire que on prend d'une main, mais on donne absolument pas d'une main, c'est de l'autre main. C'est la logique du gouvernement déjà depuis un certain moment. Prendre aux pauvres pour donner aux riches, c'est tout l'inverse de ce qu'était Robin des Bois, mais ça on l'a bien compris depuis longtemps. Alors si on revient sur les principales mesures de cette réforme chômage, la première chose c'est la privation de droits au chômage, puisque à la fin ou maintenant, enfin à partir du 1er décembre prochain, à la fin d'un CDD ou d'une mission d'intérim de 6 mois, eh ben, aucun droit ne sera ouvert. Donc si vous faites un CDD ou une mission d'intérim de 6 mois, ça vous donne droit à rien, voilà. Et évidemment, donc pas de droit ouvert, donc pas d'allocation. Et puis, à partir du 1er décembre, il faudra aussi avoir travaillé 8 8 mois pour pouvoir ouvrir des droits, au lieu donc de 6 aujourd'hui. Donc voilà, pour bénéficier d'un revenu de remplacement pendant une durée qui est similaire à sa période travaillée. On se rend compte en fait qu'en quelques années, le nombre de mois travaillés pour bénéficier d'une allocation aura donc doublé par rapport à avant la réforme de 2019, où il fallait simplement avoir travaillé 4 mois pour pouvoir ouvrir des droits et bénéficier d'allocations. On vous le dit, là, à partir du 1er décembre, ça sera 8 mois, de 4 à 8. C'est bien un doublement du temps de travail en l'espace de 5 ans qui est maintenant nécessaire pour pouvoir bénéficier d'une allocation chômage. Et puis dans le même temps, la période de référence sur laquelle l'ensemble des temps d'emploi compte va aussi être réduite. Avant la réforme annoncée de ce week-end, bah, les 8 mois travaillés étaient comptés sur une période de 20 mois. Seront maintenant comptés sur une période de 20 mois contre 24 mois précédemment et contre 28 mois avant 2019. Avec pour effet, bah, c'est quoi l'effet ? Bah, c'est que ça va exclure encore certains demandeurs d'emploi de l'indemnisation. On voit bien donc que cette mesure, elle est donc extrêmement, extrêmement sévère, qu'il y a près de 200 000 personnes qui ont travaillé moins de 8 mois qui verront ainsi leur indemnisation supprimée, soit retardée le temps qu'elles retrouvent un emploi pour atteindre le nouveau seuil de 8 mois qui sera maintenant réclamé. Il y a un document par exemple de l'UNEDIC qui est sorti le 17 mai dernier, hein, qui a évalué les effets d'une augmentation du nombre de mois travaillés, avec plusieurs scénarios qui étaient compris entre 7 et 12 mois, puisqu'on ne savait pas exactement ce que le gouvernement allait prévoir, mais qui avait déjà des résultats et des résultats de ces scénarios qui étaient sans appel. Pour un passage à 7 mois, hein, l'UNEDIC n'avait pas évalué l'hypothèse à 11 mois, c'était 11% des allocataires qui verraient l'ouverture de leurs droits retardés. Donc là, on peut estimer qu'on est plus proche peut-être des 12, 13, 14, voire 15%. Ça veut dire que plus d'une personne sur 10 va être radiée de son accès au droit chômage. Et puis, presque une personne sur 2 concernée par ce retard aurait des droits chômage déclarés de moins d'un an pour cause d'une période d'emploi qui est trop fractionnée. Et ben, le choix du gouvernement s'est fixé donc sur 8 mois. Et le pourcentage d'allocataires sera donc bien supérieur à ce qui était privé. Si on parle des intérimaires et des gens qui sont en CDD, en contrat de durée déterminée, et ben eux, ils sont particulièrement ciblés aussi par la mesure, puisque déjà, on peut rappeler que la moitié de ceux qui sont inscrits à Pôle emploi le sont après des CDD, par exemple. En 2019, déjà, le passage de 4 mois travaillés à 6 mois pour ouvrir des droits avait eu pour effet d'exclure de nombreux demandeurs d'emploi de l'indemnisation. On avait vu que 30 000 ouvertures de droits en moins chaque mois avaient eu lieu suite à la réforme de 2019, et c'était principalement des jeunes peu diplômés dont les deux tiers pour les deux tiers qui étaient entrés à Pôle emploi après une fin de CDD qui étaient concernés par cette histoire. Donc en fait, on se rend bien compte que c'est la logique, la spirale de la précarité qui l'emporte, que c'est la jeunesse qui tente de rentrer sur le marché du travail, et les gens qui sont déjà dans des contrats de travail précarisés, qui vont se retrouver encore plus précarisés sur le monde du travail et globalement dans leur vie, en risquant d'être radiés. Alors pour se représenter un petit peu l'impact de cette mesure allongeant la période travaillée, bah le gouvernement tout simplement lui attend qu'elle lui rapporte quasiment 3 milliards par an, 2,8 milliards exactement, hein, et puis dans un second temps 3,6 milliards qui seraient attendus par an grâce à cette réforme. Les autres économies, elles sont clairement réalisées sur la baisse de la durée d'indemnisation et sur la suppression d'aménagements dont bénéficient les seniors, ce qui sont les deux autres points de cette réforme, là, donc la baisse de la durée d'indemnisation et puis la suppression des mesures dont bénéficient les seniors, c'est-à-dire les personnes en fin d'activité de travail. Alors sur la baisse de la durée d'indemnisation, non content de rendre l'assurance chômage inaccessible à près de 200 000 salariés en arrivant en fin de contrat, le gouvernement va également réduire donc la durée des indemnisations pour tous les autres. On l'a dit, celle-ci, cette durée d'indemnisation, elle était déjà passée de 24 à 18 mois en février 2023. Mais aujourd'hui, en inscrivant une période de référence de 20 mois pour l'ouverture de droits, il va réduire mécaniquement la durée d'indemnisation un peu plus encore. Et il faut savoir que ça a des conséquences dramatiques, puisque la réforme de 2023 avait prévu que si le taux de chômage était inférieur à 9%, la durée maximale d'indemnisation diminuerait de 25%. Et aujourd'hui, bah, elle est de 18 mois maximum, parce que la durée de référence est, elle, de 24 mois. Et après le 1er décembre, bah, la durée maximale d'indemnisation passera, elle, à 20 mois. 20 mois, ça sera la durée maximale d'indemnisation à laquelle il faudra donc soustraire 25% si le taux de chômage ne remonte pas. Et donc, dans ces cas-là, la durée d'indemnisation, elle tomberait carrément, tout simplement, à 15 mois. On passerait de 20 mois à 15 mois, ce qui serait dramatique. On se rend compte qu'en 2 ans, la couverture du risque lié à la perte d'emploi, en fait, est passée de 24 mois maximum à 15 mois maximum aujourd'hui, ce qui est une dégradation véritablement énorme. Et puis, elle pourrait même baisser encore si le taux de chômage descendait en dessous de 6,5%, qui est un nouveau palier que l'exécutif a annoncé ce week-end. Et dans ce cas, elle pourrait même dégringoler jusqu'à 12 mois, ce qui représenterait la moitié de la durée d'indemnisation de 2023. Vous imaginez maintenant, en l'espace de quelques années, on serait passé de 24 mois d'indemnisation de chômage à 12 mois. Alors, il est encore trop tôt pour mesurer pleinement les effets de la réforme de 2023, puisque un an après son entrée en vigueur, l'UNEDIC expliquait qu'elle ne concernait pour l'heure que 12% de l'ensemble des locataires, mais quand même, hein, dans les différentes informations qu'on a eues, et puis dans son allocution du 17 mai dernier, l'association gestionnaire estimait que le passage à 12 mois maximum d'allocation dégraderait la situation d'un million d'allocataires, environ un million d'allocataires. Bon, dernier point sur tout ça, c'est la question des seniors. Cette réforme, ça va être une véritable boucherie pour les seniors, puisque Gabriel Attal a annoncé que le décret qui sera publié le 1er juillet prochain modifiera aussi profondément les droits au chômage des salariés privés d'emploi les plus âgés, parce qu'il est plus difficile, on le sait, de trouver un travail après 50 ans. Et ben, jusqu'à présent, les plus de 53 ans bénéficiaient de 30 mois d'indemnisation, et les plus de 55 ans bénéficiaient de 36 mois d'indemnisation. Après un premier coup de rabot qui a eu lieu l'année dernière en 2023, le gouvernement aujourd'hui leur impose une seconde peine qu'on pourrait quasiment qualifier de double peine, puisqu'en plus de devoir travailler 2 ans de plus pour pouvoir partir à la retraite, avec l'allongement du temps du départ à la retraite de 62 à 64 ans, et ben ceux-ci devront attendre maintenant l'âge de 57 ans pour obtenir une durée d'indemnisation plus longue que les 15 mois que le gouvernement réserve aux autres chômeurs. Donc vous imaginez, jusqu'à peu, si on avait plus de 53 ans, espérer 30 mois d'indemnisation. Si on avait plus de 55 ans, espérer 36 mois d'indemnisation. Et ben maintenant, que nini, faudra attendre plus de 57 ans pour pouvoir espérer une indemnité un petit peu plus longue, mais une indemnité un peu plus longue que tout simplement les 15 mois qui seront proposés à l'ensemble des chômeurs. Alors la borne d'âge de 53 ans, elle a été tout simplement supprimée. Celle de 55 ans, elle a été tout simplement décalée à 57 ans, sous prétexte que l'âge de départ à la retraite avait été lui-même décalé de 2 ans, de 62 à 64 ans. Et donc ainsi, un licencié à l'âge de 55 ans va perdre 58% de sa durée d'indemnisation par rapport à ce qu'il pouvait toucher en 2022, c'est-à-dire il y a simplement 2 ans. Il va perdre plus de la moitié de l'indemnisation auquel il avait droit, puisqu'il sera passé de 36 mois à 15 mois d'indemnisation. Et même s'il a l'âge de 57 ans, il bénéficiera de son allocation simplement pendant 22 mois et demi contre 27 mois, ce dont auquel il pouvait bénéficier avant la réforme de 2023. Bon, c'est une véritable saignée, du coup, hein, que le gouvernement a créée. et a annoncé. Alors, il annonce mettre en place un bonus emploi senior qui consiste à compléter le revenu d'un senior qui aurait pris un emploi et un salaire inférieur à celui qu'il avait pour ouvrir des droits. Mais ça ne fonctionnera que pendant un an et c'est une mesure qui on peut considérer comme une mesure de déqualification et qui est d'ailleurs rejetée par l'ensemble des syndicats de salariés. C'est en fait un cadeau pour le patronat. Parce que si on est un chef d'entreprise qui veut optimiser sa main-d'œuvre, bah c'est très simple. Je balance tout le monde à la porte à 55 ans, et puis après 2 ans de chômage, je les récupère à moitié prix. Voilà, c'est bien facile. Calculé, c'est facile. Et j'ai fait des économies, je récupère ma main-d'œuvre. Voilà ce qui risque de se passer et dans quelle logique on se retrouve aujourd'hui avec ces réformes. Du coup, face à tout ça, on se rend bien compte qu'aujourd'hui, l'objectif, c'est de rendre l'accès à l'indemnisation plus difficile, hein, que le montant des allocations ne cesse d'être réduit, que la durée d'indemnisation aussi, et que c'est une véritable destruction des droits au chômage et un véritable appauvrissement et une précarisation des travailleurs et des travailleuses et des travailleurs qui sont privés d'emploi, que les allocations elles ont baissé de 16% en moyenne et que pour arriver à un montant moyen qui dépasse les 1000 euros, ça va être le cas de la grande masse des indemnisés. Et cette baisse a concerné déjà 1 million de personnes depuis 2019. On l'a dit, beaucoup de jeunes, beaucoup d'intérimaires, beaucoup de personnes qui sortent de contrats déterminés, donc beaucoup de demandeurs d'emploi qui sont soumis à des contrats courts. Et depuis 2019, déjà, le nombre d'ouvertures de droits a reculé, on l'a dit, de 30 000 personnes par an. Quant au nombre de personnes percevant une indemnité chômage, bah, ce nombre il a aussi dégringolé pour descendre déjà bien en deçà de la moitié des inscrits à France Travail. Alors ces nouvelles attaques, c'est des attaques qui nous concernent toutes et tous. C'est des attaques sur le droit à la protection contre la perte d'emploi, qui concernent donc l'ensemble des travailleurs et des travailleuses, avec ou sans emploi. Et en réalité, plus de la moitié des salariés, au cours de leur activité, sont déjà passés par une perte d'emploi ou une inscription à l'assurance chômage au cours de leur carrière. Alors, incriminer les chômeurs, c'est s'incriminer soi-même sur un marché du travail qu'on sait qui est dégradé par le patronat, dégradé par l'État. D'autant plus que les suppressions qui sont annoncées à venir vont renforcer cette tendance. Que le temps qui sépara l'emploi en CDI du RSA va lui aussi être réduit et que tout ça se fait dans le plus grand bénéfice du patronat qui précarise toujours plus l'emploi. Le patronat va être largement bénéficiaire de cette réforme, on l'a vu et on s'en doute. La pression à la reprise d'emploi à n'importe quelle condition va peser autant sur les chômeurs et les chômeuses que sur les travailleurs et les travailleuses en activité. Et puis pendant ce temps-là, l'État lui va faire des économies budgétaires sur le dos des plus fragiles et puis va continuer à subventionner les entreprises en payant à leur place par exemple des apprentis. Et on peut que nous militants anarchistes, militants communistes libertaires, on peut que combattre l'idée que le chômage, c'est la faute des chômeurs et des chômeuses, que l'arlésienne croissance va créer des emplois et qu'il faut travailler plus pour gagner plus. Tout ça c'est le miroir aux alouettes. C'est pour ça que nous militants et militantes de l'Union communiste libertaire, on défend une assurance chômage de haut niveau, qui soit financé par la hausse des cotisations patronales et puis que pour réduire le chômage il n'y a pas 15 000 solutions. La principale aujourd'hui, c'est de réduire le temps de travail et puis imposer des embauches qui correspondent à ces suppressions de postes. Voilà, en tout cas, de jours sombres s'annoncent pour les chômeurs et sur le front du monde du travail.
Moi j'avoue que j'aimerais bien que Gabriel Attal nous explique un petit peu comment réduire les droits des chômeurs et des chômeuses permettrait de les remettre sur le chemin de l'emploi dans un pays, quand même, on le rappelle, qui compte environ 2,3 millions de personnes au chômage pour seulement environ 500 000 emplois disponibles. Alors, comme toi, je suis pas très fort en maths, mais ça fait à peine plus d'un cinquième des gens. On se demande bien ce qu'ils comptent faire des 4/5 qui restent.
Voilà, une aberration de plus du système capitaliste. Allez, on va faire une deuxième pause musicale dans cette émission Idées Noires. Justement, un morceau à propos qui date pourtant de la Commune de Paris, mais qui chantait déjà à l'époque que les mauvais jours finiront. Morceau qu'on retrouve tout de suite sur cette émission Idées Noires. C'est la semaine sanglante.
mettront, quand tous les pauvres s'y mettront. Demain les gens de la police refleuriront sur le trottoir, fiers de leurs états de service et le pistolet en sautoir. Sans pas son travail et sans armes, nous allons être gouvernés par des mouchards et des gendarmes, des sabres peuplés, des curés. Oui mais, ça prend le temps, le manche, les mauvais jours finiront. Et car, à la revanche, quand tous les pauvres s'y mettront, quand tous les pauvres s'y mettront.
Les pauvres s'y mettront, bien sûr, chanson, la semaine sanglante sur la commune. Quand tous les pauvres s'y mettront, les mauvais jours finiront. Bah, c'est ce qu'on peut souhaiter aussi avec ces annonces dramatiques sur la réforme de l'assurance chômage. Vous êtes toujours à l'écoute de l'émission Idées Noires, comme tous les mercredis soirs de 20h à 21h sur 102.2 de Radio Canu, la plus rebelle des radios. Et c'est bien sûr l'émission de l'Union Communiste Libertaire, de l'UCL. On est encore ensemble pour un petit quart d'heure et on va faire une petite page sur la vie du mouvement, la vie de notre mouvement plus particulièrement.
Oui, et puis une page, c'est bien dit, bravo, c'est une belle transition puisqu'on va vous parler de notre journal. Vous êtes des petits vénards et des petites vénards de Radio Canu puisqu'en écoutant Idées Noires, ça vous permet de découvrir en exclusivité, en tout premier, le contenu de notre journal Alternative Libertaire et le prochain numéro, celui de juin, il est riche parce que l'actualité l'est tout autant. En une, donc, ce mois-ci, le massacre en Palestine, une nouvelle fois, et plus généralement, une qui se centre sur les expressions de soutien, que ce soit pour le peuple palestinien ou contre l'antisémitisme. La société se polarise en ce moment autour de tout ça, mais l'UCL tient à le rappeler, la solidarité n'est pas un crime, c'est le titre de cette une. La lutte contre l'antisémitisme est... c'est une nécessité antiraciste et elle renforce au passage la lutte de solidarité avec les Palestiniennes et Palestiniens. Sortir des postures, obtenir la mobilisation la plus large, retrouver une lecture internationaliste indispensable. Sans ces objectifs en tête, nous resterons dans l'impasse. Voilà ce qui est en une d'Alternative Libertaire. Et puis un sujet média aussi que vous pourrez retrouver, c'est pas si souvent et pourtant c'est nécessaire dans la lutte antifasciste, puisqu'on va parler dans ce numéro de CNews, tête de pont de la présence de l'extrême droite à la télévision. CNews a fait ces derniers mois l'objet d'une décision du Conseil d'État et de plusieurs commissions d'enquête parlementaires, alors que la question du renouvellement de sa fréquence sur la TNT va se poser en 2025. Mais au-delà de son cas particulier à CNews, c'est aussi la question de la concentration des médias qui se pose en France actuellement, puisque la plupart sont détenus par une poignée de milliardaires à peine. Voilà donc une analyse que vous pourrez retrouver dans notre journal. Et puis on peut citer aussi un reportage réalisé par une camarade dans la partie turque du Kurdistan. L'article est titré « Un contrôle du territoire par la destruction de la mémoire ». Il revient sur les stratégies déployées par le président turc Erdogan pour construire un narratif nationaliste favorable à son parti, à lui, l'AKP, en effaçant la mémoire et la culture kurde, le tout afin de prendre le contrôle de ce territoire, et puis au passage faire oublier qu'il a perdu quand même dans cette région les dernières élections municipales. Voilà, donc un petit tour rapide de ce que vous pourrez retrouver dans l'alternative libertaire de ce mois de juin, à paraître très bientôt. Un journal que vous pourrez retrouver pas dans tous les kiosques, mais seulement dans les meilleurs. Que vous pourrez retrouver à la Plume Noire aussi, on en a régulièrement plusieurs numéros. Plume Noire, j'en profite pour le rappeler, qui est ouverte les mercredis de 17h30 à 19h30, juste avant cette émission, et les samedis de 15h à 19h quand on n'a pas autre chose. Et d'ailleurs, en parlant d'autre chose, il y a une raison pour laquelle on n'a pas pu ouvrir samedi dernier. C'était un très beau week-end organisé par l'Union communiste libertaire. C'était le week-end au TAF.
Au TAF, on vous en a parlé en long, en large et en travers au cours des émissions précédentes. On vous a annoncé le programme.
C'est vrai qu'on en a pas mal parlé.
Bien sûr, on en a fait la promission. Au TAF, c'était la deuxième édition. Deux jours de rencontres pour le syndicalisme libertaire autogestionnaire. La première édition avait lieu à Paris et cette deuxième édition avait lieu le week-end dernier à Lyon, plus précisément à Villeurbanne, à la salle des Italiens. Et l'idée était, à notre initiative, de faire converger autour de différentes tables rondes des syndicalistes, sans exclusivité, si quand même pas le syndicalisme ni patronal ni collaboratif.
Au moins de lutte.
Mais le syndicalisme au moins de lutte, pour échanger sur la situation sociale actuelle, sur les luttes à mener, sur les convergences, sur comment renforcer un pôle libertaire, autogestionnaire au sein du syndicalisme, quelle que soit l'organisation d'appartenance, et puis comment faire que le syndicalisme ne se contente pas d'être sur des postures défensives ou autres, mais puisse renouer avec cette fameuse double besogne du syndicalisme révolutionnaire, à la fois améliorer nos conditions de vie et de travail ici et maintenant, tout en activant la gymnastique révolutionnaire pour préparer une rupture anticapitaliste. C'était un peu la trame de ces rencontres. Ça a été de belles journées, ces deux journées de OTAF, puisque une centaine de personnes sur l'ensemble des deux jours ont participé aux différentes tables rondes et ont participé aux débats. On vous le rappelle, des débats qui ont permis d'aborder des thèmes extrêmement différents, qui allaient des luttes dans les secteurs féminisés à la sociabilité ouvrière, en passant de quelle place pour les luttes trans dans le monde du travail, jusqu'à l'unification du syndicalisme de lutte, ou encore quel rapport entre syndicalisme et écologie. Voilà ce qui a été le programme de ces journées d'OTAF, de riches débats, et puis avec une particularité, parce qu'il s'agissait ni de faire la leçon, ni de faire des meetings.
Oui, en fait, moi, c'est ce qui m'a marqué le plus clairement dans ces deux journées, c'est que, au-delà du plaisir de rencontrer des camarades dans des moments conviviaux, c'était évidemment la qualité des échanges entre la tribune et la salle. Bon, on ne va pas se jeter des fleurs pour ce magnifique événement. Mais en tout cas, comme tu le disais, les tables rondes ont été des vraies tables rondes et pas juste des tribunes, puisqu'elles ont duré, je sais pas, entre 1h et 1h30 pour les plus longues, sans compter les moments où ça a débordé. Et la plupart du temps, les invités parlaient moins de la moitié du temps à la tribune, pour consacrer le reste à donner la parole à la salle qui, quel que soit le sujet, a eu énormément de remarques, de réflexions et de questions. La majeure partie du temps, elle a été utilisée pour que tout le monde puisse s'exprimer, poser ses questions à la tribune, ou même se répondre entre elle et eux à l'intérieur de la salle. Je pense notamment à celle sur la solidarité ouvrière, la sociabilité ouvrière, qui a fait pas mal parler dans la salle. Donc oui, comme tu l'as dit, plus qu'une conférence, c'était des véritables discussions. On n'a plus qu'à espérer qu'elles porteront leurs fruits dans toutes les orgas qui ont pu venir, et puis qu'elles porteront leurs fruits pour nous, travailleuses et travailleurs, qui dès demain retourneront au taf.
Et puis, incontestablement, au vu de la réussite de cette seconde édition des rencontres syndicalistes généraux libertaires, On appelle une suivante et je pense que les camarades de l'Union communiste libertaire d'autres villes vont prendre le relais et vont reproduire l'expérience. On vous tiendra bien évidemment informés et au courant parce que on peut toujours se déplacer et y participer. C'est ouvert à tout syndicaliste de lutte qui souhaite s'y joindre et qui souhaite échanger et sans sectarisme aucun pouvoir créer des convergences avec d'autres militants syndicaux. Voilà ce sur quoi on voulait revenir. Il nous reste encore quelques petites minutes dans cette émission Idées Noires. On va peut-être faire un petit point avec l'actualité politique qui est celle des élections européennes.
Oui, des élections qui approchent. Et même si nous, à l'UCL, on n'est pas particulièrement fan du jeu électoraliste, qui est souvent un simulacre de démocratie, surtout dans les élections qui nous attendent là le dimanche 9 juin. L'UCL a quand même publié un communiqué qui revient sur le danger réel et très concret de l'extrême droite dans ces élections et puis surtout dans leur potentielle force de frappe au niveau européen. On le sait déjà en Hongrie, en Pologne, en Italie, l'extrême droite est très implantée, mais aussi au niveau européen, ils arrivent à se démarquer. Donc voilà, je vais vous lire un petit extrait de ce communiqué qui s'appelle La peste brune lorgne sur l'Europe. Et voilà ce qu'il dit. De tous les processus électoraux de la démocratie bourgeoise, les élections européennes sont celles qui intéressent le moins les masses populaires. C'est aussi celle que l'extrême droite choisit pour mobiliser ses électeurs et électrices afin d'apparaître comme le premier parti de France. En tant que militantes et militants libertaires et antifascistes, nous ne souhaitons pas participer à cette mascarade, mais il est important pour nous de rappeler que l'extrême droite ne défendra jamais notre classe et qu'elle ne l'a jamais fait. Depuis 2019, 2 ans après l'échec du FN au second tour de l'élection présidentielle, le parti d'extrême droite, historiquement eurosceptique, a changé sa ligne politique concernant l'Europe. Fini le Frexit qui s'est avéré être un repoussoir, le parti d'extrême droite appelle maintenant à des changements de l'intérieur. Ce désir nouveau de créer une Europe des nations avec ses alliés réactionnaires et avec en ligne de mire en particulier la création de nations blanches et chrétiennes, ce désir trouve un écho en France. Le FNRN est arrivé en tête aux élections européennes de 2019 avec plus de 5 millions de voix, 5 millions de trop d'ailleurs, soit 23,34% des votants, obtenant ainsi 23 sièges pour le groupe européen Identité et Démocratie. Rappelons quand même que 50,12% d'abstention et que l'addition des scores des partis de gauche, entre guillemets, les plaçait devant l'extrême droite en termes de voix. Pour les élections de juin 2024, la ligne FNRN aligne des figures de la société civile, évidemment adoubées pour leur racisme, en tête de gondole Bardella, bien sûr, mais aussi Malika Sorel-Sutter, essayiste spécialisée dans la décomposition française, une décomposition qui serait due à l'immigration, évidemment. On voit aussi l'ancien directeur de Frontex, Fabrice Leggeri, qui a démissionné de l'organisation sous le coup de plusieurs scandales et qui est menacé de sanctions disciplinaires parce qu'il avait tenté à l'époque de faire en sorte que l'organisation Frontex devienne une milice de défense des frontières balayer les obligations d'aide aux personnes exilées en danger. Donc le dernier trophée aussi pour le FN, c'est encore un syndicaliste policier, Mathieu Vallée. On l'a pas mal vu sur les plateaux de télé ces derniers temps, ancien porte-parole du syndicat indépendant des commissaires de police. Lui aussi sous le coup d'une enquête de service, du service de déontologie de la préfecture de police, comme le rappelait le Canard Enchaîné, pour avoir détourné à son profit 1 millier d'euros de bons d'achat SNCF destinés à plusieurs gardiens de la paix. On espère qu'il n'ira pas à Strasbourg avec tout ça. Donc pour conclure, je vais juste vous lire la conclusion de ce communiqué. Forte aujourd'hui de ses 130 sièges sur 705, l'extrême droite européenne semble en mesure de gagner une cinquantaine de sièges supplémentaires lors des prochaines... ou peut-être supplémentaire, pardon, lors des prochaines élections européennes. Je me dépêche, mais du coup, j'aurai des lignes selon les prochaines intentions de vote. Mais Lucelle tient à rappeler que la brunisation du paysage politique n'est pas une fatalité. En France, comme partout en Europe et dans le reste du monde, la lutte antifasciste des masses populaires est nécessaire pour faire avancer nos intérêts dans le sens de la démocratie directe, de l'autogestion des moyens de production, de la socialisation des richesses, en somme de la lutte des classes que l'extrême droite espère gommer au profit des bourgeoisies nationales.
Voilà, c'est sur ces belles paroles qu'on espère qu'elles trouveront écho et qu'elles s'incarneront dans la réalité, qu'on va terminer cette émission Idées Noires. L'émission Idées Noires, comme tous les mercredis soirs de 20h à 21h, sur 102.2 de Radio Ganu, la plus rebelle des radios, l'émission de l'UCL, l'Union Communiste Libertaire. On vous retrouve donc bien évidemment dès la semaine prochaine pour une nouvelle émission des Idées Noires. Moi, je vous retrouve aussi juste après notre générique pour une nouvelle édition de la bande-son de nos révoltes, une émission spéciale, puisqu'on va commémorer et fêter les 30 ans des partisans, groupe lyonnais engagés et contestataires. Restez à l'antenne. Salut à toutes et à toutes. C'était donc l'émission Idées Noires.